Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Dernier né des processus régionaux en Afrique, le G5 Sahel prend forme avec sa force conjointe, mais se heurte depuis plusieurs mois à des écueils majeurs. Des capacités financières et opérationnelles limitées, une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, notamment de la France, et une priorité au volet militaire qui délaisse la partie développement aux grandes dames des populations locales. Tout cela rend l'avenir du G5 Sahel incertain, d'autant que certains pays importants, comme l'Algérie, cherchent une autre voie et notamment en constituant une force d'intervention rapide à l'échelle du continent sous l'égide de l'Union africaine. Le G5 Sahel mis à l'épreuve, c'est le thème d'Orient Hebdo ce dimanche avec notre invité, l'universitaire Abdennour Benantar. Une émission à réécouter sur notre site www.rfi.fr ou à podcaster sur notre appli Pure Radio. Bonjour Abdennour Benantar.
Bonjour Éric Bataillon.
Maître de conférence à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous publiez aux éditions L'Harmattan ce livre sur les initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel. Abdennour Benantar, diriez-vous que l'espace sahélo-maghrébin est l'une des zones les plus instable du continent africain aujourd'hui?
Oui, on peut dire ça pour diverses raisons d'ailleurs. La faiblesse de l'État est beaucoup plus affirmée, si je puis dire, que d'autres régions. Donc vous avez des problématiques structurelles assez importantes. Vous avez un espace important, très large, hein, qui va quand même dans la bande sahélo-saharienne, ça va de l'océan jusqu'à la mer Rouge, en tous les cas la partie nord, l'océan Indien aussi. Et vous avez des problématiques conjoncturelles qui viennent se greffer à ces problématiques structurelles. Donc, initialement, on a un problème de l'édification de l'État-nation post-indépendant. Et les problèmes structurels qui n'ont pas été réglés depuis les années de l'indépendance viennent se greffer à ces problèmes-là des problématiques d'ordre sécuritaire telles que la prolifération de groupes djihadistes à la fois locaux mais aussi transnationaux.
Oui, justement, d'où vient cette instabilité selon vous? Est-ce qu'elle est structurelle ou est-ce qu'il y a aussi des éléments conjoncturels qui viennent s'ajouter à cette instabilité?
En fait, disons que l'analyse, je puis dire, et voire même l'action des États régionaux et l'action de la communauté dite internationale sont faussés par l'urgence sécuritaire. C'est-à-dire que la prolifération de ces groupes djihadistes dans la région, qui menacent donc ce qui existe ou ce qui reste de ces États-là, des États extrêmement fragiles et faibles, cette urgence sécuritaire a fait oublier à ces acteurs-là, différents intervenants régionaux et internationaux, l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le traitement politique, ce que je développe dans le livre sur la thématique terroriste. À partir du moment où on est arrivé à militariser la lutte antiterroriste, ça veut dire qu'on a déjà échoué au plan politique dans le traitement de ces problèmes-là. Donc, ce que je développe aussi dans le livre, le phénomène ou l'activité terroriste ne crée pas de l'instabilité. Elle profite d'une instabilité structurelle à laquelle elle vient ajouter des insécurités. Mais elle n'est pas à l'origine des problèmes du Sahel. Il y avait déjà des problèmes dans cette région-là.
Abdennour Benantar, parlons maintenant du G5 Sahel. Rappelez-nous quelles sont ses spécificités et surtout ses objectifs.
Alors, ce groupe donc qui regroupe 5 États, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, a été lancé pour, j'allais dire, centraliser un peu les initiatives dans la région. Il avait deux objectifs majeurs parce qu'un a disparu au cours de la route. Le principal objectif est évidemment d'ordre sécuritaire, développer la coopération en matière de sécurité entre les États de ce groupe-là de façon à sécuriser l'espace G5 Sahel. Le problème du G5 Sahel, c'est que l'essentiel des insécurités sont internes à son propre espace. Il a un seul problème avec la frontière Niger-Libye. Tout le reste, c'est cet ensemble-là qui pose problème aux autres. C'est pas les autres qui lui posent problème en termes de sécurité. Et donc, développer la coopération sécuritaire et l'autre volet de cet objectif sécuritaire, c'est s'approprier ces acteurs du G5 Sahel, s'approprier leur propre sécurité. Ils deviennent donc acteurs de leur propre sécurité. Le deuxième objectif, c'est le développement économique. La philosophie initiale à la base de ce projet rejoint un peu la stratégie algérienne et la stratégie d'autres pays, c'est ce fameux continuum de sécurité-développement. L'indivisibilité de la sécurité et de développement, cela veut dire il ne peut y avoir de sécurité sans le développement et vice-versa. Mais au fil du temps, le volet développement a été délaissé en faveur du volet sécuritaire. en raison notamment de cette urgence sécuritaire qui fausse l'appréciation à des acteurs en présence. La spécificité, c'est il y a une certaine cohésion géographique, socio-économique de ces pays-là. Ils sont parmi les pays les moins avancés au monde. Et puis une faiblesse structurelle. Ils sont dépourvus de moyens réellement, notamment militaires, à part le Tchad qui est le colosse militaire du G5 Sahel. Le reste de ces pays-là ne dispose pas réellement de moyens militaires suffisants, d'où le problème. Peut-on additionner des faiblesses? La mise en commun des faiblesses donnera des faiblesses, ne donnera pas de force. Ça, c'est la problématique centrale, me semble-t-il, de ce groupe.
Et justement, que pensent les voisins les plus immédiats du G5 Sahel, à savoir juste au nord, le Maroc et l'Algérie? Quelle est la position? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une compétition entre ces deux États vis-à-vis du G5 Sahel?
Alors, il n'y a pas réellement une compétence, en tous les cas, entre ces États vis-à-vis du G5 Sahel, puisque les deux en sont exclus. Ce qui est problématique d'ailleurs. Mais cela dit, si on leur proposait, ils vont pas accepter. L'Algérie n'acceptera pas d'y adhérer. Le Maroc, on lui fera pas la proposition, me semble-t-il, puisque s'il accepte, ça devient vraiment problématique à gérer avec l'Algérie. Donc le G5 Sahel a intérêt, évidemment, à ce que l'Algérie et le Maroc restent en dehors de cet ensemble-là. Et la France, je pense qu'elle a très bien compris cette susceptibilité intermaghrébine. Mais n'en demeure pas moins que le fait que ces États-là soient exclus de ce groupe-là est en soi problématique, puisque ça ne facilite pas, si vous voulez, son insertion régionale. On parlait tout à l'heure de cette prolifération des initiatives. Le G5 Sahel a du mal à se frayer un chemin, à trouver une place dans cette jungle de prolifération. Et in fine, sa légitimité régionale passe par une coopération soutenue avec les deux poids lourds du Maghreb, à savoir l'Algérie et le Maroc.
Justement, est-ce que l'Algérie, qui partage une très longue frontière avec une grande partie du G5 Sahel, a un rôle particulier et a une politique particulière vis-à-vis du G5?
Sa politique au Sahel, concernant le G5 Sahel, elle est plutôt proche de la position américaine. C'est-à-dire, elle a plus ou moins les autorités algériennes, je pense qu'elles ont de très grands doutes sur la capacité du G5 Sahel à endiguer les insécurités accrues dans la région. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à partir du moment où elles n'ont pas intérêt et envie d'en faire partie, elles continuent à développer les pistes bilatérales comme les États-Unis. Les États-Unis, le G5 Sahel, sont très réservés sur ce groupe-là. Et du coup, lorsqu'ils ont décidé de lui apporter de l'aide à sa force conjointe, ils ont préféré de le faire par la voie bilatérale. Et l'Algérie aussi a des pistes bilatérales très soutenues en matière de coopération, y compris militaire et sécuritaire, notamment avec le Mali et le Niger. Et donc, elle continue à développer ses perspectives de coopération. Là où il y a une divergence du fond, l'Algérie est partisane à la stratégie algérienne au Sahel, où sa doctrine de sécurité régionale repose sur l'appropriation, une véritable appropriation, c'est-à-dire que les États de la région doivent prendre en charge leur propre sécurité régionale sans qu'il y ait intervention de l'acteur extérieur. Or, le Sahel repose essentiellement, pour diverses raisons, à tort ou à raison d'ailleurs, repose sur l'appui français, notamment l'opération Barkhane, ce qui ne correspond pas tout à fait à la stratégie algérienne en la matière, qui va plus vers une africanisation. Enfin, c'est un double. Il y a une nuance importante entre les deux, mais les deux processus. L'africanisation doit conduire à une appropriation, et donc les acteurs extérieurs doivent venir en appui, mais à la marge. Ça peut être fourniture du matériel ou du renseignement, mais pas plus. Il ne faut pas qu'ils participent à la définition de l'agenda stratégique dans la région.
Orient Hebdo sur RFI.
Vous écoutez Orient Hebdo et nous sommes en compagnie d'Abdennour Benantar qui publie Les initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel aux éditions L'Harmattan, collection Perspectives stratégiques. Alors justement, vous abordiez la question de la force conjointe il y a un instant. Cette force conjointe, elle vient quand même finalement peut-être en compétition avec Barkhane ou en complément. Par qui est-elle soutenue précisément et est-ce que les populations locales ont confiance?
Elle s'appuie sur Barkhane. Elle existe au plan, j'allais dire, opérationnel. elle existe grâce à Barkhane. C'est-à-dire que la France a joué un rôle majeur, puisque certains considèrent qu'il émane de la France. C'est une création à 100% française. Il y a une part de vérité dans cela, mais les choses sont pas aussi simples que ça. Il y a tout un processus d'appropriation. Il y a une stratégie d'extraversion de la part des régimes en place, etc. Donc cette force-là s'appuie essentiellement sur Barkhane et adoit son existence au plan opérationnel en termes de coopération pratique, d'interopérabilité, de soutien et d'appui logistique. D'ailleurs, les premières opérations ont eu lieu grâce à l'appui logistique de Barkhane. Et donc, elle est très largement soutenue par la France, mais par d'autres acteurs en raison de leurs liens avec la France, certains pays du Golfe qui sont engagés à financer la force conjointe. Alors, cette force-là souffre de certaines faiblesses, j'allais dire structurelles, c'est-à-dire qu'elle regroupe des armées nationales qui sont très faibles. Leur mise à niveau nécessite énormément de temps, mais aussi des moyens. Et il n'y a aucun État, j'allais dire un colosse économique et militaire qui peut prendre la direction de cette force, comme la force mixte internationale ou qui regroupe le Tchad, par exemple, où le Nigeria joue un rôle majeur compte tenu de ses moyens militaires et économiques. Le Sahel ne dispose pas de ses moyens. Donc, cette force-là souffre d'un déficit financier chronique, mais aussi d'un déficit de légitimité. Nous avons parlé de la légitimité au plan régional. Maintenant, effectivement, votre question renvoie à cette problématique de légitimité au plan local. On l'a vu récemment avec ces manifestations à Bamako, où, suite à l'appel de certaines associations de la société civile, des Maliens ont manifesté contre l'installation du quartier général de cette force au Mali. Alors, il y a deux éléments à préciser. Le premier, c'est l'intervention de cette force-là, certaines de ses opérations dans les espaces frontaliers, a démontré des lacunes, des insuffisances importantes. Il y a un militaire qui fait partie du commandement, il dit que les groupes armés sont au courant de nos opérations avant même qu'elles soient lancées. Donc il y a vraiment un problème en termes de communication au sein de cette force-là. S'il y a des fuites à ce niveau-là, c'est très grave. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelle alternative que la force vient faire une opération et puis elle regagne son quartier général, ça ne change pas la donne. C'est pour ça que l'ancien commandant de l'opération Barkhane, il soutient le fait que pour endiguer ces problèmes d'insécurité, il faut qu'il y ait une présence permanente. Il faut que la peur change de compte, donc passe de côté population vers le côté des groupes armés, puisque pour l'instant, les autorités n'arrivent pas à offrir d'alternatives à ces populations. Le troisième et le dernier élément qui est lié à ces événements-là, ces manifestations à Bamako, c'est ce qui est reproché à la force conjointe. C'est toujours la même problématique. Qui protège le protecteur? Qui contrôle le contrôleur? Si cette force conjointe est contrainte par les groupes armés, quitter le Nord-Mali à s'installer dans la capitale malienne, ça veut dire qu'elle va importer, au lieu d'exporter de la sécurité vers le Nord-Mali et les espaces frontaliers, elle risque d'importer de l'insécurité dans la capitale malienne.
Est-ce que ces faiblesses que vous pointez, qui incitent certains États comme l'Afrique du Sud ou l'Algérie à préférer une force internationale africaine, en quelque sorte, africaine internationale, si je peux
dire.
Oui.
Alors, c'est une problématique centrale. En termes de gestion des crises et des conflits en Afrique, il y a deux modèles concurrents, mais en fait, ils sont complémentaires. Le premier modèle, c'est celui que dont vous parlez, prôné par l'Algérie et l'Afrique du Sud, c'est agir au plan africain avec, dans le cadre de l'APSA, donc cette fameuse architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, et donc avoir des dispositifs africains aptes à intervenir dans certaines crises. Donc, vous avez les partisans de l'échelon continental. De l'autre côté, se développe des dispositifs régionaux, donc soutenus par les partisans de l'échelon régional. Sauf que ceux qui soutiennent ces dispositifs continentaux sont aussi pour l'échelon régional, puisqu'ils veulent que les dispositifs régionaux tels que les communautés régionales de sécurité ou les dispositifs ad hoc en matière de sécurité et de gestion de crise soient pilotés par l'Union africaine. Donc c'est un problème. D'abord, c'est un problème de contrôle. Qui contrôle ces dispositifs. Le deuxième problème, c'est un problème de légitimité. Si on laisse se développer des dispositifs régionaux, il y a des risques, et on l'a vu dans certaines régions, où des États interviennent pour leurs propres intérêts. C'est-à-dire que, par exemple, on a observé, c'est très intéressant, dans certaines crises, différentes crises en Afrique, les États voisins, lorsqu'ils déploient leurs forces dans le cadre d'une force régionale, comme dans le Sahel, ils préfèrent que leurs forces soient déployés auprès de leurs frontières. Et donc, en fait, in fine, ils profitent de la crise dont souffre l'État voisin pour déplacer leurs frontières sécuritaires à l'intérieur du territoire de l'État voisin tout en gardant la frontière internationale. Et donc ça, l'échelon continental ne permet pas ça. En revanche, cet échelon-là continental souffre d'un handicap majeur, c'est que la quasi-totalité des États africains sont pour que l'Union africaine soit dotée de mécanismes de gestion de crise et d'intervention rapide, sauf que personne ne veut que son propre territoire soit le premier théâtre de déploiement de ces forces-là. Le Nigeria s'est opposé, un grand pays africain, s'est opposé à la proposition africaine de déployer une force d'intervention rapide créée dans le cadre de l'ABSA. Et cette force-là n'est toujours pas déployée puisque chaque État africain ne veut pas que son territoire en soit le premier théâtre de déploiement. Le troisième aspect, si vous voulez, de ces questions-là, c'est le rôle des acteurs extérieurs. Lorsqu'on privilégie l'échelon continental, les Africains contrôlent à la fois l'africanisation, c'est-à-dire la présence de troupes africaines dans ces dispositifs de déploiement de force en cas de crise, mais aussi ils contrôlent l'agenda politique et donc ils contrôlent l'appropriation. En revanche, si vous privilégiez l'échelon régional, il se peut que vous perdrez l'appropriation, donc le contrôle de l'agenda et des tenants et des aboutissants d'une opération. En revanche, vous allez privilégier l'africanisation. L'africanisation, c'est tout simplement l'envoi de forces africaines au lieu que ce soit des forces internationales. Et enfin, le quatrième point, c'est une question d'argent. Beaucoup d'États qui participent à des opérations de maintien de la paix en Afrique préfèrent le faire dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU que dans le cadre de celles menées et commandées par l'Union africaine. Pourquoi ? C'est une affaire d'argent, parce que si il s'agit d'opérations de maintien de la paix onusienne, l'ONU paye très bien et vite. Et s'il s'agit d'opérations sous commandement africain, de l'Union africaine, ce sont les États, les gouvernements en question qui payent leurs propres soldats. Donc ils sont mal payés et parfois ils sont pas payés du tout. Donc il y a une inégalité, si vous voulez, en termes du traitement réservé aux soldats de la paix en Afrique.
Est-ce pour cela que vous écrivez en sous-titre de votre livre que ce G5 est mis à l'épreuve ?
Alors, il est mis à l'épreuve parce que il arrive dans un moment, il est dans un contexte régional extrêmement compliqué, à la fois au plan sécuritaire, mais aussi à cause de cette prolifération massive des initiatives, mais aussi il est mis à l'épreuve. Ce que je développe à la fin, c'est que les principales difficultés du G5 Sahel sont d'ordre régional, c'est-à-dire que les États faibles en addition des faiblesses, ça donne pas un colosse, hein, ça reste une mutualisation des faiblesses, ça donne des faiblesses. Et donc, l'idée que j'ai développée, c'est consiste à dire que, finalement, son avenir dépend essentiellement du soutien de la France, mais aussi du soutien des acteurs régionaux, notamment l'Algérie et le Maroc. Donc, il est mis à l'épreuve de cette insertion régionale qui, me semble-t-il, très difficile, à laquelle s'ajoute évidemment son déficit financier chronique. Donc une instabilité à la fois politique, mais aussi financière.
Merci Abdennour Benantar.
Merci à vous.
Je renvoie à votre livre « Les initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel », publié chez l'Harmattan, collection Perspectives stratégiques. Ce nouveau numéro d'Orient Hebdo a été mis en onde et réalisé par Mathias Gulchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain, dans un instant, le journal.
برا الحزن البغض والزوارة برا الحزن الحزن ما بقى امان برا العطش والناس منحوسين برا الحرمة الظلم والعبودية برا نشفوا اليدين عند الكبرات برا النجوم تفضل قد الشمس برا ما بقى خير لسعادة ولا زهر برا ما بقى السجلة سكتوا لطيور برا ما بقى ليلة نهار الدرما برا جهنم ما بقى زين